Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Moïse Moussangana. Il est journaliste professionnel, il est ancien directeur des publications du journal Les Potentiels, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Bonjour Moïse Moussangana.
Bonjour Guy Maté.
Madame Isabelle Pendeza-Bikai, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED en sigle. Bonjour Madame Isabelle Pendeza-Bikai.
Bonjour Monsieur Guy Maté, bonjour à tous nos auditeurs.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Ligue de Belgique. Bonjour Hubert Leclerc.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Moïse Moussangana. Il est journaliste professionnel, il est ancien directeur de publication du journal Les Potentiels, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Madame Isabelle Pendeza-Bikai, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED en sigle, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Au menu de cette émission, l'appel de l'opposition à un dialogue politique, la crise dans l'Est de la RDC et les doubles jeux des Occidentaux, enfin la clôture de la journée de l'aide humanitaire dans les contextes du conflit dans l'Est de la RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la rentrée scolaire prévue ce 2 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En effet, la rentrée scolaire est confirmée pour le 2 septembre prochain. Un accord a été trouvé entre les syndicats des enseignants et le gouvernement samedi à Bibois, dans la partie est de Kinshasa. Le gouvernement s'engage à appliquer une partie des accords passés tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants. Prenant la parole, le porte-parole de l'intersyndicat des enseignants de l'éducation nationale, Godefroy Matondo, a souligné que les enseignants ne sont pas totalement satisfaits quant à leurs revendications. Ces derniers s'en remettent à la bonne foi du président de la République et du gouvernement souminois. Après la séance des signatures, la ministre d'État chargée de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, a affirmé l'engagement de son ministère à maintenir un dialogue permanent avec les bancs syndicales et pour le bien-être des enseignants et l'amélioration du système éducatif congolais. Moïse Moussangana, la rentrée scolaire est confirmée pour lundi 2 septembre. Pourquoi, à votre avis, la rentrée scolaire dans ces pays a toujours été un moment d'incertitude et d'angoisse?
Ouais, ça a été toujours un moment de certitude et d'angoisse parce que elle est toujours précédée par beaucoup de choses, principalement les revendications des enseignants, parce que c'est les moments opportuns pour les enseignants de poser leurs problèmes. Parce qu'il faut dire que c'est le moment où les enseignants pensent que ils peuvent obtenir gain de cause de la part des dirigeants politiques qui, si la rentrée n'a pas été effective, pose un problème sur le plan politique, avec risque que cela se mêle à d'autres revendications, soit de politiciens, d'autres catégories socio-professionnelles. Donc, ça a été toujours un moment très très critique pour le gouvernement. Voilà pourquoi ça captive toujours l'attention même du gouvernement. Juste à la veille de cette rentrée, il y a toujours ces négociations gouvernement enseignants. Voilà.
Merci Madame Isabelle Pendez-Abikaï. Au Nord Kivu où vous êtes, il y a des défis, n'est-ce pas, pour cette rentrée scolaire, notamment la scolarisation des élèves se trouvant dans différents camps des déplacés. On parle de plus de 600 000 enfants, mais aussi assurer la sécurité des élèves, étant donné que le banditisme urbain bat son plein actuellement dans la ville de Goma. Vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous pouvez faire comme recommandation aux autorités pour que cette rentrée se passe sans beaucoup de difficultés?
Alors, merci beaucoup, M. Guy, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent à pareil moment. Je sais une seule chose, c'est que les autorités de la RDC se sont engagées et ont confirmé la rentrée scolaire. Cela étant la province du Nord Kivu qui est secouée par un mouvement de l'insécurité persistante, mais aussi de la guerre qui nous a été imposée. Et avec ça, il y a plus de enfants, comme vous l'avez dit, plus de 600, ce chiffre est très élevé, d'enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école. Mais aussi, il y a des enseignants qui ont fui la guerre, qui sont des déplacés ici, mais qui sont des enseignants et qui souhaiteraient enseigner comme discipline d'ailleurs de leur carrière. Et avec ça, il y a la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma où c'est chaque jour, il y a des tueries, il y a des assassinats, il y a des vols à main armée. Et ce sont des choses qui inquiètent au fait les citoyens congolais et surtout les citoyens de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu. Mais je sais une telle chose qu'il y a eu des attentes entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et aussi avec les enseignants, mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus.
Merci Hubert Leclerc. On fait face aux mêmes angoisses, aux mêmes stress en Belgique à la veille de la rentrée scolaire, comme c'est le cas ici en RDC et aussi dans beaucoup de pays africains.
Non, c'est beaucoup plus serein chez nous. Je veux dire, en général, ce qui tend un petit peu les relations, c'est de voir parfois l'absence de budget ou le manque de budget. Pour encadrer les enfants, il y a une grosse crise ici en Belgique et de manière générale en Europe sur le nombre d'enseignants. Donc il y a beaucoup d'écoles qui sont à court d'enseignants. C'est un métier qui a du mal, on va dire, à séduire pas mal de jeunes. Et donc ça c'est assez compliqué. Et donc c'est beaucoup de stress de ce côté-là pour savoir si l'école sera capable de mettre suffisamment d'enseignants. Je dirais que c'est le seul petit stress qui existe chez nous, quoi.
Merci. On prend une petite pause avec École de Sarah Lula et on revient juste après.
Hélène Fro, oh, Sarah Lula, la déesse. Dérouille-toi. Simba, tu es un enfant adoré. Évite trop de dodo. Lève-toi tôt. Prends ton sac à dos. Pararara, pararara, c'est l'heure d'aller à l'école.
Hey, oh, cette année, je te rassaisirai.
Oh, applique-toi bien, je t'assure, tu auras des cadeaux à gogo.
Hey, oh, cette année, je te rassaisirai.
Sois pas, sois pas comme Zozo, barquez-toi, tu es vraiment mon héros.
Hey, oh, cette année, je te rassaisirai.
Oh, applique-toi bien.
La 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 la
Mété École, cette chanson à travers laquelle Sarah Lula encourage les enfants à aller à l'école et à adopter un comportement exemplaire. On revient à l'actualité cette semaine. L'opposant Martin Fayoulou, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, plaide pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que les pays font face à une agression du Rwanda sous couvert de la rébellion du M23. Dans un discours posté sur les réseaux sociaux, Martin Fayoulou a insisté sur l'importance de l'unité nationale. Hubert Leclerc, vous êtes journaliste au journal La Libre de Belgique. Vous avez souhaité nous parler de cet appel de l'opposition au dialogue politique. On vous écoute.
Oui, j'ai souhaité vous parler de cet appel parce que j'étais assez surpris de voir cet appel de M. Fayoulou. Non pas parce qu'il le faisait depuis les États-Unis, mais parce que je me disais, tiens, c'est quand même bizarre, parce que aujourd'hui, M. Fayoulou, le poids politique de M. Fayoulou est très faible. Ensuite, parce que, en termes de timing, on est tout au début du second mandat du président Tshisekedi. Il a prêté serment il y a 7 mois, son gouvernement est installé depuis 4 mois, donc c'est très très tôt pour en arriver déjà à quelque chose qui pourrait ressembler à une table ronde. Donc ça, c'était aussi très très étonnant, parce que évidemment ce pouvoir dispose également d'une majorité plus qu'absolue, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants, donc on voit pas très bien, je dirais, ce que l'opposition a à mettre dans la balance. Et ensuite, parce que dans la déclaration de M. Fayoulou, certes il évoque le Rwanda, ce besoin de cohésion nationale pour faire face à la menace rwandaise et à l'agression rwandaise, mais il ne donne pas de cadre à cette discussion qui pourrait débuter. Et ça, c'est quand même assez bizarre de voir un opposant qui ne pèse pas grand chose, qui se dit ok, on va se mettre autour de la table pour discuter, mais discuter de quoi? Je veux dire, en général, lorsqu'il y a ce type de négociation qui commence, il y a d'abord le pouvoir qui est demandeur. Or ici, il ne semble pas être demandeur, puisqu'il vient juste de s'installer, il a une majorité absolue, comme je viens de vous le dire, et l'opposition qui lance le ballon d'essai met des préalables sur la table. Préalables qui seraient connus, qui pourraient être, par exemple, on ne change pas. Si vous voulez qu'on en discutions, on met quelques points sur la table, on ne change pas la Constitution, on modifie, on revoit la composition de la CENI, on revoit la composition de la Cour constitutionnelle. Ici, il n'y a rien de tout ça, il y a juste un leader de l'opposition, mais qui, par ses choix, ne représente pas grand-chose au terme du Parlement, se dit, tiens, on va se mettre autour de la table, et qui annonce que l'Église serait prête à jouer le rôle. Alors, de ce que j'en sais, il n'y a aucune demande, il n'y a aucune démarche qui a été faite auprès de l'Église catholique, ou quelle qu'elle soit. Donc c'est quand même très très étonnant, j'ai vraiment été surpris, je me suis demandé, mais pourquoi M. Fayoulou lance cet appel dans le contexte actuel? Je n'ai pas compris, en fait. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que, sincèrement, je ne vois pas très bien, à part peut-être, et ce serait lui donner un mauvais rôle, jouer le jeu d'une majorité qui se cherche un petit peu, qui tente de gagner du temps, je ne vois pas très bien quelle est l'optique, d'autant plus qu'on a vu directement que l'opposition était, qui représente vraiment pas grand-chose, l'opposition politique aujourd'hui au Congo, puisque donc vous avez les deux chambres qui sont à plus de 90% entre les mains de la majorité, et vous voyez que l'opposition est complètement divisée, et qu'il y a deux blocs évidents, avec du côté des opposants Katangé, une réponse qui n'a pas tardé à filtrer, et qui était de dire, ben, on ne voit pas du tout pourquoi on viendrait à table. Donc j'ai l'impression que c'est un ballon d'essai qui ne porte pas ses fruits, et j'ai l'impression que ça déclasse un petit peu l'opposition congolaise.
Voilà, Yves Leclerc, vous ne comprenez pas l'opportunité, n'est-ce pas, d'une telle démarche dans un tel contexte, mais justement, l'initiateur Martin Fayoulou évoque le contexte de la guerre qui se vit dans l'est du pays. Il estime que l'intégrité territoriale du pays est menacée, et face à cela, en tant qu'acteur politique, il ne doit pas rester passif, il doit faire des propositions pour tant soit peu essayer de voir comment on peut faire face à cette menace. Vous ne pensez pas que le contexte soit indiqué pour qu'il initie une telle démarche?
J'en reviens à ce que je disais au départ. On a un nouveau gouvernement, on a un président qui vient d'être élu, qui a mené campagne, qui nous a expliqué comment il allait faire, qui a dit très clairement, moi je ne peux pas discuter avec l'opposition armée. Donc, je veux dire, il y a des préalables qui sont mis là clairement de la part du président, de la part du pouvoir en place, et je ne vois pas très bien ce qu'une opposition qui représente, si on les met tous les uns derrière les autres, une trentaine d'élus, peut apporter à l'équipe gouvernementale aujourd'hui en place. C'est pour moi, c'est une hérésie complète, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que M. Tshisekedi pourrait venir chercher auprès de cette opposition? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de plus? En général, lorsque l'on organise ce genre de... J'ai du mal à utiliser le mot table ronde. Lorsque l'on organise ce genre de... On va appeler la table ronde... de discussion, en général, il y a un équilibre ou un léger déséquilibre, on va dire, dans les représentants. Ici, c'est même pas un léger déséquilibre. On a une opposition qui ne représente vraiment pas grand-chose. Et au sein de cette opposition, on a déjà une division qui apparaît dès le départ. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de voir entre opposants s'il y avait matière à lancer ce genre de débat ou ce genre de proposition. Et de voir s'il y avait une matière, un intérêt du côté du gouvernement aussi, parce qu'on ne sait même pas si le gouvernement est demandeur ou pas. Vous voyez, je ne comprends pas, sincèrement, cette démarche.
Merci, Madame Isabelle Pendeza Bikai. Vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED en sigle. Vous venez de suivre Hubert Leclerc qui, selon lui, Martin Fayulu n'a pas assez de poids politique actuellement. Il évoque le fait que on est encore au début, n'est-ce pas, du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, et il évoque le fait que dans la démarche de Martin Fayulu, on n'a pas évoqué, n'est-ce pas, des éventuels préalables, et lui, il pense que c'est plutôt un ballon d'essai. Quel est votre point de vue par rapport à la démarche initiée par Martin Fayulu?
Alors, mon point de vue d'abord, c'est que c'est un citoyen congolais, il a le plein droit de s'exprimer et d'exprimer ses sentiments et aussi ses idées ou ses pensées. De deux, c'est un homme politique, il est de l'opposition, il est connu comme un citoyen congolais opposant. Et c'est de son plein droit de présenter une action de plaidoyer en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo. Mais à moi, comme l'a dit d'ailleurs le co-débatteur, c'est que Martin Fayulu, avec l'opposition aujourd'hui, ne représente pas une force pesante au niveau de la classe politique et aussi au niveau des institutions politiques en République démocratique du Congo. Mais à moi, nul n'ignore qu'aujourd'hui, nous avons un problème de cohésion nationale. Nous avons ces soucis. Il y a des frustrations de part et d'autre. Il y a d'autres personnes qui ne se sentent pas impliquées dans la gouvernance de la République démocratique du Congo. Mais hélas, on doit rentrer encore en arrière quand il y a eu les programmes ou soit il y a eu les projets de la tenue des élections où certaines personnes ont jugé bon de s'écarter ou soit de se mettre de côté, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui comme conséquence. Et je me pose la question de savoir ce qu'on n'a pas pu planifier il y a quelques mois en termes d'électorat, c'est pas aujourd'hui peut-être qu'on doit devoir les revendiquer. Mais ce qui est sûr, nous avons besoin de l'inclusion, nous avons besoin d'un gouvernement inclusif. Et je pense il est de notre responsabilité en tant que Congolais de réfléchir encore profondément pour arriver à une compréhension totale afin de mettre tous les Congolais au centre et de parler des questions de l'avenir de la RDC. Aujourd'hui, la RDC, ce n'est pas seulement la partie Est, c'est ce que je vais dire comme les gens se disputent en termes de la partie Est ou de la partie Ouest. Nous n'avons pas deux républiques démocratiques du Congo. Nous nous n'avons qu'une seule République démocratique du Congo. Et si une partie est blessée, c'est tout le corps qui est blessé. Nous avons besoin de voir que ces hommes qui conduisent ou qui dirigent ce pays soient quand même conscients et comprennent qu'on a besoin de tout le monde pour construire une République démocratique du Congo forte.
Merci Moïse Moussangana, vous êtes journaliste professionnel, vous êtes ancien directeur des publications du journal Les Potentiels, ancien DG des CKTV, vous êtes chercheur en matière électorale. Que répondez-vous à cette opinion selon laquelle, à travers ces dialogues que propose l'opposition, certains opposants, en contrepartie, n'est-ce pas, du partage des pouvoirs, cherchent à sauver les régimes en place qui se trouvent devant une impasse face à la crise que nous connaissons dans l'est du pays?
Vous savez que Guy Maté, malgré les grosses lunettes qu'a porté Hubert Leclerc, il n'a pas su voir qu'est-ce qui motive la démarche de Fayoulou. Effectivement, il faut savoir que Fayoulou n'a jamais su ce qu'il est en train de chercher. Au départ, il faut dire qu'il pose très mal son équation. Fayoulou veut faire croire que cohésion nationale est égale à la fin de la guerre. Non, là, cette guerre-là, s'il y a cette guerre-là, ce n'est pas à cause de la cohésion nationale. Il y a beaucoup de facteurs qui militent pour cette guerre. C'est pourquoi même j'ai proposé comme thème le double jeu des Occidentaux, par exemple. Donc, là, il est vraiment à côté. C'est comme a dit Olivier Kamitatou, Fayoulou semble être essoufflé. Il a fait les matamores pour prouver qu'il avait du poids, alors que même en 2018, Fayoulou en soi ne représentait rien. Il n'avait bénéficié d'une popularité d'emprunt du fait de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi qui avaient fait bloc derrière lui parce que les deux ne pouvaient pas se présenter aux élections. Et vous allez voir que Fayoulou, tous ces derniers temps, depuis les dernières élections, il n'a jamais parlé de SID qui est son parti. Il parle toujours de la Mouka, qui est aujourd'hui une coquille vide. Donc, comme l'a dit Hubert Leclerc, Fayoulou, c'est un point mouche sur le plan politique. Bien sûr, il a été un activiste pendant tout ce temps, mais c'est un point mouche parce que son parti, SID, n'a pas de capacité de mobilisation dans le pays. À part Kinshasa et quelques coins de la République, Fayoulou n'existe nulle part ailleurs. Je disais ici que Fayoulou ne sait jamais ce qu'il est en train de chercher. Vous avez vu, avec les dernières élections générales, Fayoulou a dit qu'il ne participera pas aux élections, et puis par après, il a rapproché la bande des opposants, Katumbi, Sesanga et consorts, il les a faussés compagnie, et puis par après, il revient dans le jeu lui-même, tout en marginalisant ses partisans. Donc aujourd'hui, il n'a pas aucun de ses partisans n'a été candidat, député national comme provincial. Donc il n'a aucune force politique sur le terrain. Donc je crois que c'est juste, il veut amuser la galerie. C'est une vaste blague, je dirais.
Voilà, vous dites qu'il n'a pas, de force politique. Vous dites qu'il n'a pas de force politique sur le terrain. Mais est-ce que cette démarche de Fayoulou ne peut pas être capitalisée par les régimes actuels? Est-ce que les régimes actuels ne peuvent pas profiter de ça pour se mettre dans une bonne posture, étant donné que on a l'impression que par rapport à la crise de l'Est, on est dans une impasse.
Ben, on est dans une impasse à cause de la cohésion nationale. Vous pensez que Nanga, s'il a rejoint les Rwandais de l'autre côté, c'est à cause de la cohésion nationale? C'est-à-dire que si Nanga constate qu'il n'y a pas de cohésion nationale, il va s'allier à un étranger pour attaquer son pays? Donc c'est pas vrai. Donc la cohésion, le manque de cohésion nationale n'est pas la cause de cette guerre qui a commencé il y a longtemps, vous le savez, c'est depuis 30 ans que cette guerre nous a été imposée à partir de l'AFDEL jusqu'aujourd'hui. Vous savez que ce n'est pas le premier dialogue qu'on a tenu dans ce pays. Et vous savez comment ça finit toujours. Ça veut dire que le dialogue a été toujours utilisé par les politiciens comme un accès au pouvoir. Donc les gens veulent que demain ils se rencontrent pour se partager encore le gâteau. Parce que je ne vois pas. Est-ce que si Fayoulou, s'il y a dialogue, ça veut dire quoi? Que Fayoulou a ses forces militaires quelque part, qu'il va mettre maintenant à la disposition de FARDC pour renforcer la puissance de feu de FARDC. Non. Non et non. Alors,
vous pensez que si l'objectif primordial est la mise en place de la cohésion nationale, l'objectif ultime serait le partage du pouvoir à travers un gouvernement qu'on appellerait gouvernement de cohésion nationale.
Écoutez, nous en avons l'expérience. Nous en avons l'expérience. Si vous prenez depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des dizaines de dialogues que nous avons tenus. Mais ça s'est terminé toujours comment? C'est par un partage de responsabilités dans le pouvoir et ça se limite là-bas. Parce que je ne vois rien. C'est comme je venais de dire, je répète ce que je venais de dire. L'équation de Fayoulou est mal posée. La cohésion nationale n'est pas égal à la fin de la guerre à l'Est, parce que cette guerre a d'autres motivations qui nous dépassent. Et ces motivations, comme je l'ai dit, comme je vais les développer par après, dans ce que j'ai appelé le jeu double des Occidentaux, parce qu'on sait comment aussi les Occidentaux sont en train de jouer là-dessus, principalement les Américains, qui utilisent aujourd'hui les Rwandais et les Ougandais comme les sous-traitants dans cette partie de l'Afrique, comme ils avaient utilisé Mobutu jadis pour la sous-région de l'Afrique centrale.
Merci. Chers auditrices, chers auditeurs, l'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le dimanche 25 août, le célèbre artiste, musicien et compositeur Janom Bombenga a fêté ses 90 ans d'âge et 70 ans de carrière musicale. On va donc, à l'occasion de son anniversaire, écouter une de ses chansons intitulée Naluki Otro Elodie et on revient juste après.
Elodie,
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous sommes encore dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la rentrée scolaire prévue ce lundi 2 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons également analysé l'appel de l'opposition à un dialogue politique. Participe à cette émission, Moïse Moussangana, il est journaliste professionnel, il est ancien directeur des publications du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Madame Isabelle Pendeza-Bikay, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement Café dans Sigle, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Le gouvernement de la RDC a lancé jeudi 29 août à Kinshasa la campagne nationale dénommée CPI Justice pour la RDC. C'est le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international Samuel Mbemba qui l'a annoncé dans une communication faite devant les médias à Kinshasa. Il explique qu'à travers cette initiative, le gouvernement entend obtenir de la Cour pénale internationale l'ouverture des enquêtes sur les atrocités commises par les Rwandais dans l'est de la RDC. Samuel Mbemba sollicite ainsi l'accompagnement de tous les Congolais pour l'aboutissement de cette campagne. Par ailleurs, la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, a annoncé l'ouverture pour le 26 septembre 2024 de l'examen en audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda pour des exactions commises dans la province du Nord Kivu sous couvert des mouvements rebelles du M23. Le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international l'a annoncé aussi ce même jeudi. Moïse Moussangana, vous avez souhaité nous parler de la crise dans l'est de la RDC et les doubles jeux des Occidentaux. Qu'entendez-vous par double jeu des Occidentaux, Moïse Moussangana?
Je voudrais dire par cela que ce que nous connaissons dans la partie orientale de notre pays est aussi le fait des Occidentaux qui, mis par leurs intérêts dans cette partie du continent et surtout en République démocratique du Congo, qui, vous le savez, était un grand réservoir de minerais dont on a besoin par ces temps de transition énergétique, pourquoi pas même de transition numérique. Vous savez que le Congo est le premier producteur du cobalt, il a au monde 50% des réserves modales sont au Congo, donc il y a plusieurs minerais comme cela. En ce qui concerne le numérique, et comme ça, vous avez par exemple le coltan. Malgré le fait que le Rwanda a pu vendre le vent pendant toutes ces années de guerre, qu'il était le premier producteur mondial du coltan, et il a voulu se faire hub en Afrique, pourquoi pas un hub mondial pour le coltan, mais la vérité a fini par éclater depuis 2016. avec tout ce qu'il y a eu comme progrès en matière de traçabilité, en matière de due diligence avec l'OCDE et consorts. Vous savez que la République démocratique du Congo est premier producteur mondial du coltan, malgré cette guerre. Et vous avez vu, les Occidentaux, il n'y a pas très longtemps, signer un accord avec les Rwandais pour les minerais dont ils ne disposent pas. Donc, cela voudrait dire quoi? Que les Rwandais n'est qu'un instrument qui est utilisé par les Occidentaux pour déranger ces grands éléphants qui vivent de Congo. Un grand éléphant au pied d'argile. Et il n'y a pas très longtemps, vous avez vu ce qu'il y a eu, qu'on a décrété comme trêve humanitaire par deux fois de suite par les États-Unis et enfin le cessez-le-feu. C'est-à-dire que ces Occidentaux, avec en premier lieu les États-Unis, ont les moyens pour pouvoir terminer cette guerre. Il suffit seulement de dire au Rwanda d'arrêter et de rentrer dans son pays. Aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît que les militaires rwandais sont au Congo. La communauté internationale, à travers plusieurs déclarations, a demandé que le Rwanda rapatrie ses militaires. Mais cela n'est toujours pas suivi d'effet, parce que la communauté internationale est complaisante vis-à-vis du Rwanda.
Justement, Moïse Moussangana, oui. Si effectivement ces doubles jeux est établi et que, comme vous le dites, l'enjeu serait, n'est-ce pas, fermer basse sur les minerais de la RDC. Pourquoi l'Occident, pourquoi ces puissances occidentales auraient besoin de passer par le Rwanda au lieu de venir directement négocier avec la RDC?
C'est ça toute la question qu'il faut se poser, parce que même le gouvernement congolais a déjà posé ces problèmes pour pouvoir négocier tête à tête avec toutes ces multinationales et consorts. Ça n'a jamais été le cas. Je crois aujourd'hui, vous savez par exemple que le Rwanda est utilisé par la France par exemple comme sous-traitant pour les intérêts français au Mozambique, avec les intérêts gaziers français de l'autre côté. Vous savez que aujourd'hui le Rwanda est parmi les principaux fournisseurs des casques bleus de l'ONU. Il en compte plus de 4000. Et la France, qui a voulu jouer à l'abonné absent en Centrafrique, a été obligée de recourir au service des Rwandais pour essayer un peu de peser aujourd'hui par rapport aux Russes qui sont en Centrafrique par les biais de Wagner. Donc on voit que, à un titre ou à un autre, le Rwanda est chargé de services pour telle ou telle autre puissance.
Merci Madame Isabelle Pendeza. Si on est convaincu de ce double jeu des Occidentaux, comme l'affirme, n'est-ce pas, Moïse Moussangana, et que la RDC a tenté, n'est-ce pas, d'aller vers ces Occidentaux pour essayer, tant soit peu, de les amener à soutenir la cause, notre cause, la cause nationale, la cause de la RDC, c'est qu'on n'a pas été en mesure de convaincre, c'est qu'on ne s'est pas montré crédible vis-à-vis de ces Occidentaux, Madame Isabelle Pendeza.
Alors, avant peut-être que je ne puisse entrer dans les détails, je voulais signaler à un certain moment qu'il y a un niveau très élevé d'une distraction au niveau de la République démocratique du Congo et un niveau élevé d'aveuglement par rapport à cette question de manque de paix dans notre pays. Et aussi longtemps, on ne sera pas en mesure de comprendre ce qu'est l'intérêt de la RDC dans tout ce qui concerne les différentes guerres qui se sont passées en République démocratique du Congo. On sera toujours en train de tournoyer et de penser, vouloir travailler pour le retour de la paix et pour peut-être en train de jouer le jeu de l'ennemi. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas la vérité. Nous devons arriver à tant que Congolais ou gouvernement congolais de comprendre ce qu'est l'intérêt général de la République démocratique du Congo dans tous les mécanismes de paix et de sécurité. On ne peut pas parler de la manière dont on dit ben, les autres pays ont beaucoup en termes d'effectifs dans les Nations Unies et pourquoi pas la RDC. Ça, ce sont des sujets auxquels on ne peut même pas donner beaucoup plus d'énergie. Là où nous devons nous focaliser, c'est de comprendre le fonctionnement de notre armée, le fonctionnement de notre police, la réforme qui a commencé il y a un moment donné. Qu'est-ce que nous avons capitalisé dans tout ce qui concerne le processus de paix et de sécurité? Et c'est quoi l'intérêt réel de la République démocratique du Congo? Vous savez, aujourd'hui, c'est une honte. La RDC fait face à une agression qui n'a pas de nom. et ce sont bizarrement les femmes qui paient les lourdes conséquences de cette guerre et de cette agression. À tout moment où on voit les déplacements massifs des populations, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes et qui souffrent profondément quand il y a les hommes qui se battent sur les terrains. Et moi, je voulais aussi questionner à nos autorités quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo dans tout ce qui concerne le processus de paix. Je ne suis pas contre avec tous les mécanismes mis en place pour la recherche de la paix. Mais aussi longtemps que nous, peuple congolais, on ne sera pas en mesure de comprendre que nous sommes les premiers acteurs dans la recherche de la paix, alors personne ne viendra donner sa vie et personne ne viendra verser son sang pour venir sauver les Congolais. C'est-à-dire que nous devons tous nous impliquer et oublier d'abord nos divergences politiques et s'impliquer pour la recherche de la paix, et pas d'une paix partielle, mais d'une paix durable. On est vraiment fatigué, on est à la fin même, on peut dire, on est au-delà de la misère, on est au-delà de la souffrance. Et donc, nous avons l'obligation et le devoir de demander à nos autorités de nous donner la paix, on est fatigué. C'est vrai, on a toujours dit que la population de l'Est et la population de la province du Nord-Kivu est résiliente, mais jusqu'à quand cette résilience? On est très fatigué, on ne sait même pas quoi dire.
Merci.
Vraiment, ça doit prendre fin.
Merci. Hubert Leclerc, double jeu des Occidentaux, un discours qu'on entend depuis plus de 30 ans, depuis que le pays fait face à la guerre dans sa partie orientale. Quelle est votre lecture par rapport à cette question précise, Hubert Leclerc?
Monsieur Guivatet, vous avez posé la bonne question en vous disant, mais pourquoi est-ce qu'on passerait par le Rwanda? Ben, pourquoi les Occidentaux passeraient par le Rwanda s'ils pouvaient passer de manière tout à fait consensuelle, purement économique par le Congo? Il n'y a aucune raison. Je pense que aujourd'hui, il y a une volonté dans le pouvoir congolais de rejeter systématiquement toutes les fautes sur le petit voisin de l'Est et de ne prendre aucune responsabilité. Je veux dire, on a l'impression que le pouvoir, il est victime de tout et qu'il n'est responsable de rien. C'est un peu facile, je dirais, comme attitude, comme politique. Il faut se poser quand même la question de savoir pourquoi le Congo n'est pas capable de se doter d'une vraie armée qui stabiliserait le pays, qui stabiliserait la région. Ok, les Rwandais sont certainement de très bons combattants, ils ont une structure, ils ont ce que vous voulez, mais c'est un tout petit pays par rapport au Congo. Si vous aviez un pays qui veut vraiment fonctionner, qui veut se donner les moyens de fonctionner, qui veut se donner les moyens de se doter d'une armée franche, efficace, qui travaille, qui fait son boulot, je veux dire, la paix doit s'imposer. Alors venir dire que c'est systématiquement la faute des autres, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens, peu importe, je dirais que c'est un peu facile et qu'il faudrait peut-être que les autorités d'aujourd'hui et d'hier se regardent un petit peu le nombril et que demain, surtout, tout de suite, on se mette en place, enfin que tout se mette en place pour qu'on ait les moyens, qu'on se donne les moyens. Quand on voit le budget qui serait, en tout cas qui sort des caisses de l'État pour l'armée congolaise, on se dit, mais cette armée, ça doit être une des meilleures armées du monde. Et quand vous voyez le résultat sur le terrain, ce sont des gens qui sont en guenilles, qui ne mangent pas, qui n'ont pas d'armes. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce détournement? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les moyens pour arrêter cette guerre? J'en reviendrai à ce que je vous disais tout à l'heure avec un peu peut-être de cynisme. C'est incompréhensible.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Shaoru Yako avec Taboulay et Mbili Abel et on revient juste après.
Don't let them baby, you can't see this now.
Yako avec Taboulé Mbilia Bel. Je rappelle que nous avons dans cette émission Moïse Moussangana, il est journaliste professionnel, il est ancien directeur des publications du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Madame Isabelle Pendeza Bikaï, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement café dans Sigle et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique. Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Clôture de la journée de l'aide humanitaire dans le contexte du conflit dans l'est de la RDC. Madame Isabelle Pendeza Bikaï, vous avez opté pour ce sujet. On peut savoir pourquoi.
Merci beaucoup, Monsieur Guy. J'ai opté pour ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité et nous avons clôturé avec la journée mondiale de l'aide humanitaire avec une table ronde organisée par les différentes organisations féminines qui travaillent dans l'humanitaire, qui sont sur la première ligne au niveau de la réponse humanitaire dans la province du Nord Kivu. Nous ne pouvons pas seulement montrer les défis auxquels on fait face, bien que nous avons des défis qui se multiplient chaque jour, mais nous devons aussi parler des réalisations et évaluer les réalisations des organisations féminines dans la réponse humanitaire. Vous savez, avec les principes humanitaires, il y a deux choses souvent que peut-être on faisait et qui ne correspondaient pas peut-être avec la réalité sur les terrains. Aujourd'hui, en termes de mouvement de population, il y a plusieurs personnes qui se sont déplacées de leur zone et qui manquent de quoi peut-être manger ou de quoi se vêtir parce que la réponse humanitaire peut-être n'est pas suffisante. Cela ne signifie pas qu'on doit condamner peut-être les réalisations faites, non. Il y a les organisations internationales ainsi que le gouvernement congolais qui ont fourni beaucoup d'efforts en apportant de l'aide humanitaire aux nécessités. Il y a aussi les différentes organisations locales qui sont toujours en mouvement pour apporter de l'aide humanitaire auprès des déplacés, mais aussi des orphelinats, mais aussi des enfants vivant dans la rue. Vous savez, aujourd'hui, avec le déplacement massif de population, il y a aujourd'hui dans la ville de Goma les enfants qui remplissent toutes les rues de Goma parce que ce sont des enfants déplacés et qui ne savent pas quoi manger, comment vivre et qui n'ont pas aussi l'accès à peut-être à un bon encadrement. Et pour nous, on a pensé qu'il y a une bombe à retardement que nous devons vraiment prévenir dès le départ parce qu'aussi longtemps que ces enfants vont s'habituer à la vie de la rue, on ne saura pas peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, quels deviendront ces enfants. Mais nous savons qu'une telle chose, c'est que la réponse qui a été apportée par les organisations et par les différentes professeurs religieuses aussi dans la ville de Goma ne parvient pas à répondre à tous les besoins de déplacés, même aux vrais besoins de déplacés. Parce que le seul besoin de ces populations-là, c'est le retour à la paix et que ces populations puissent rentrer dans leur zone. Aujourd'hui, il y a un mouvement de retour de population. Et il y a toujours des craintes qui sont manifestées par ces populations qui se disent, mais on est dirigé par qui? on est protégé par qui? Et ce sont la plus grande crainte que nous avons et que nous présentons chaque jour. Nous avons, avec les organisations féminines qui travaillent dans l'humanitaire, présenté les actions qui sont réalisées, voire même par les femmes déplacées, parce que les femmes ont été sur la ligne, la première ligne, entre d'apporter la réponse auprès des femmes, les femmes qui ont montré différentes difficultés auxquelles elles faisaient face, surtout les difficultés en rapport avec les violences sexuelles basées sur le genre, mais aussi les viols. Parce que si vous voyez aujourd'hui les statistiques des cas de viol qui ont monté, et il y a aujourd'hui une flambée des cas de viol et des enfants mineurs qui ont été enceintés et d'autres qui sont finalement aujourd'hui malades. Mais je sais qu'il y a une coordination humanitaire qui travaille dans la coordination de toute aide humanitaire. Il y a les organisations internationales, mais aussi il y a les organisations locales. Et en parlant de ça, nous avons réfléchi beaucoup plus sur la localisation de l'aide humanitaire, où les organisations nationales doivent être à la première ligne dans la réponse humanitaire, parce que ce sont ces organisations qui vivent chaque jour avec ces personnes qui ont besoin de cette aide humanitaire. Et je pense aussi que l'humanitaire en soi n'est pas quelque chose qu'il faut forcer, mais c'est une passion. Les acteurs qui travaillent sur la première ligne dans la réponse humanitaire doivent aussi respecter les principes humanitaires, dont il y a la neutralité, il y a l'humanisme, il y a différents critères qui nous orientent. Mais je sais aussi que la localisation peut-être n'est pas encore bien comprise par les différentes parties. Cela étant, c'est un besoin pour que les différentes parties qui interviennent dans la coordination humanitaire puissent se comprendre et puissent coordonner les efforts afin que nous puissions apporter une réponse adéquate et équilibrée auprès de nos bénéficiaires. Il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit, les enfants qui ont droit à rentrer à l'école. Oui, il y a le gouvernement provincial qui a communiqué par rapport aux différentes dispositions pour la rentrée scolaire qui est déjà confirmée pour ce lundi prochain. Mais il y a des enfants déplacés qui ne savent pas comment rentrer à l'école et qui n'ont pas peut-être les outils pour rentrer à l'école. Même s'il y aura l'accessibilité de l'enseignement même dans les camps des déplacés, mais ces enfants qui vont leur doter des cahiers ou des uniformes ou encore des cartables ou des souliers, et même si ces enfants vont partir à l'école, ils doivent manger, ils doivent être encadrés pour que ces enfants ne puissent pas dire, ben oui, on est allé à l'école, mais vont aller quémander dans toute la ville depuis le matin jusqu'au soir. Mais on doit avoir des mécanismes coordonnés avec les autorités provinciales, mais aussi avec les organisations qui interviennent dans la protection de l'enfance. Je pense que je vais m'arrêter d'abord par là.
Merci. Merci, Hubert Leclerc. Réponse humanitaire insuffisante. On sait que la communauté internationale fait face à plusieurs crises humanitaires et semble, n'est-ce pas, débordée par cette question. Mais si le monde mettait en place une sorte de mécanisme d'anticipation de toutes ces crises, vous ne pensez pas qu'on pourrait être en mesure, n'est-ce pas, d'apporter les réponses qu'il faut à toutes ces crises, Hubert Leclerc?
Et comme vous le dites, les demandes sont multiples et sont gigantesques aujourd'hui. Quand vous voyez la crise, bon, évidemment il y a la crise au Congo qui est là depuis 30 ans, il y a des structures qui sont mises en place, mais on sait très bien que, évidemment, pour avoir ces moyens d'aider ces gens, aider ces populations qui manquent de tout, il faut évidemment des fonds, et on voit bien aussi que, au niveau des Nations Unies, au niveau des instances internationales de manière générale, beaucoup de pays qui sont en difficulté ou qui préfèrent peut-être ne pas verser toutes leurs oboles aux instances internationales, se font souvent tirer d'oreilles aussi pour mettre la main à la poche et pour payer ce qu'ils doivent payer. On sait que beaucoup de pays ont des retards de paiement ou carrément des dettes vis-à-vis des instances internationales. Et évidemment, qui essaye de préparer au mieux ce genre de crise, qui essaye de parer au mieux, qui essaye de préparer la réponse. Mais évidemment, lorsque vous avez une multitude de crises, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit, je reviens avec le Soudan, au Congo, évidemment, c'est impossible de prévoir. Je veux dire, vous avez vu qu'au Soudan, ce sont 2-3 millions de personnes. Vous voyez à Gaza la situation. Au Congo, ce sont des millions de personnes. Et la situation, en plus de temps en temps, on se dit qu'il y a un léger mieux et puis il y a de nouveau une explosion de violence. Donc je pense que c'est vraiment très difficile pour la communauté internationale de répondre et que la meilleure réponse serait une réponse évidemment régionale ou nationale pour essayer d'abord d'éviter ces crises, évidemment.
Merci Moïse Moussangana, nous allons terminer cette émission avec vous. Et quelle est votre lecture par rapport à cette problématique, n'est-ce pas, des crises humanitaires, surtout en RDC?
Bon, la réponse ne peut être qu'insuffisante, comme vous l'avez souligné et comme mes co-débatteurs aussi l'ont souligné, parce que si j'ai suivi les coordinateurs humanitaires des Nations Unies en RDC, il n'y a pas deux ou trois mois, il a déclaré qu'il y avait 7 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo. Quand vous prenez 7 millions, ce chiffre-là, ça veut dire quoi? C'est la population du Congo Brazzaville et celle du Gabon réunie. Donc vous comprenez? Donc ce n'est pas évident pour la communauté internationale de faire face à cela, en dehors des autres crises qu'il y a dans le monde. Le gouvernement congolais lui-même n'a pas ce moyen-là, ça fait un budget de 14 milliards, c'est vraiment insuffisant pour pouvoir faire face. Donc moi je trouve que la meilleure réponse c'est la paix. Parce que s'il y a la paix revenue, nos vaillantes populations du Kivu n'ont pas besoin d'aller chercher des haricots, la pomme de terre ailleurs, parce qu'elles cultivent ces populations. Donc on ne peut pas faire autrement, la réponse ne sera qu'insuffisante parce que, comme l'a dit Leclerc, les caisses des Nations Unies ne sont pas pleines, parce que il y a des nations contributrices qui ont des dettes, qui traînent des dettes et consorts. Donc, je voudrais terminer par là pour dire que la meilleure réponse, c'est la paix, et il faut qu'on s'investisse vraiment dans la paix. Bon, toutes les passerelles qui peuvent se présenter.
Merci, nous retenons cette phrase. La meilleure réponse, c'est la paix. Et donc, nous terminons cette émission avec cette phrase. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Isabelle Pendez-Abikai, Monsieur Hubert Leclerc, Monsieur Moïse Moussangana. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Pelé Kipelamondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Mobali Yangenge de King Kester MNEA dans la presse Victoria et Louis Swan. On se retrouve le samedi prochain.
Bolingo na lingi ya kabela maite. Thank you.